Là, pour y rester. Yuzusushi.ca.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais YOLO!
Mais on vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
CV, Marceau le midi, Ravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le Rock and Chill, Boulevard du Rock et le volume à planche. Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, Boulevard Bastien à Québec et Avenue Taniata à Lévis.
Marceau le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée, un excellent jeudi. Demain, côté météo, ça va être coussi-coussa, mais samedi, dimanche, ce sera plein soleil, donc ce sera l'occasion pour nous d'en profiter, de profiter des... Les dernières gouttes du printemps qui nous restent, parce qu'on s'en va très rapidement, mais sûrement en hiver. Donc voilà, ce sera les sports d'hiver lorsque la neige sera suffisante. Ce soir, j'aurai le plaisir de jaser avec un athlète. Je pense qu'on peut dire un athlète, on peut dire un animateur, on peut dire un homme fort, on peut dire un gars aux multiples talents. C'est Hugo Gérard. Je pense qu'on ne peut pas dire que vous avez jamais entendu parler d'Hugo Gérard. Tout le monde a entendu parler de lui. Moi, la première fois, Hugo... Salut, Hugo.
Hey, salut.
Première fois que j'avais entendu parler de toi, c'était lorsque j'avais 16 ans à peu près, puis on me disait qu'il y avait un doorman au Dagobert qui était immense, puis il était à hauteur du plancher de danse, puis il se tenait là, puis il surveillait tout le temps le plancher de danse pour veiller à la sécurité de tout le monde. Puis quand j'ai eu accès au fameux Dagobert, ben j'ai vu ce fameux Hugo-là qui surveillait au Dagobert, puis bon Dieu que ça fait longtemps, tu sais, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, là. T'étais à Québec, c'est en quelle année, ça?
De 89... 95 au Dagobert.
89 à 95.
Ouais.
Ça a-tu été des belles années pour toi, ça, à Québec?
Ben, je ne dirais pas que ça a été des mauvaises années. Ça a été des années nécessaires. Ça a été un passage nécessaire. Moi, je viens de la Côte-Nord.
Ouais.
Je suis venu aux études postsecondaires ici à Québec. Puis j'ai entré presque tout de suite au Dagobert. J'avais été travailler au Jimmy's sur le chemin Sainte-Foy.
Oui.
J'ai travaillé là un mois, puis ensuite, j'ai appliqué au Dagobert, on m'a engagé, puis là, j'ai été là pour un long stretch.
Ouais.
Puis pour moi, ça a été une bonne façon de m'intégrer, je te dirais, au monde de la ville.
Ouais.
Puis, tu sais, tu travailles dans les bars, mais tu rencontres des gens, tu te fais des amis.
Ouais.
Fait que le côté social, l'interaction avec les gens, ça m'a aidé aussi dans mon travail de policier plus tard.
Ouais.
Fait que, au final, ma job de doorman, ça a été... c'était quelque chose qui m'a permis de grandir. Puis de développer des outils que j'ai pu utiliser dans ma vie puis dans mon métier plus tard.
C'est à Côte-Nord, est-ce que tu faisais ce métier-là avant de partir? T'étais-tu doorman aussi, non?
Non, je suis arrivé ici, j'avais 17 ans.
17 ans, t'étais très jeune.
Ouais, moi, je suis parti, puis tu sais, c'est à Côte-Nord, tu vis en région, on recule à cette époque-là.
Ouais.
Je dirais pas jusqu'à dire que t'es arriéré, mais t'es pas prêt à ce qui se passe en ville.
Ouais.
Moi, ce qui m'aidait, c'est que je venais passer mes étés ici, chez mon cousin. À Québec, il habitait à Beauport.
Ouais.
Donc, pendant l'été, je venais passer un mois. Donc, je connaissais la ville. J'avais hâte de venir rester ici. Je savais qu'il y avait des beaux gyms. Donc, j'étais très excité et enthousiaste à l'idée de m'en venir ici.
Ouais.
Puis, je savais que les bars, ben, quand t'as un gros gabarit, ben, c'était comme une solution facile pour se trouver un travail d'étudiant.
Ouais. Puis, c'est à Côte-Nord, pendant que tu étais adolescent puis début jeune adulte, est-ce que tu t'entraînais? Est-ce que tu avais ce style de vie-là?
Non, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 12 ans.
Oh boy, OK.
Donc moi, quand je suis arrivé ici, c'était beaucoup plus pour passer à une autre étape, avoir accès à plus d'outils, puis de grandir, puis ben, aller chercher des connaissances. Parce que on était quand même assez limité. Il y avait un gym, il y avait le gars, le propriétaire du gym qui s'appelle Yvon Desbiens, qui faisait un travail excellent, mais tu es en région, tu travailles avec des moyens limités, des connaissances limitées quand tu es arrivé ici. Mais là, tu fais comme, OK, wow, là, tu es en... C'est comme un enfant qui rentre dans un magasin de bonbons. Puis éventuellement, mais j'ai même eu la chance d'aller vivre en Californie, d'aller m'entraîner au Gold Gym là-bas, parce que c'est la mecque du bodybuilding. Puis là, mais c'est carrément un autre niveau. Là.
Ça a été quoi le déclic pour toi, à 12 ans, de commencer à t'entraîner? T'avais-tu des gens de ton entourage qui s'entraînaient? Tu te disais, ah, ben ça a l'air intéressant, moi le faire.
Mon père s'entraînait.
Donc,
pour moi, mon père, c'était mon idole. Puis à l'âge de 5 ans, j'ai eu mes premiers haltères. Donc moi, m'entraîner. J'attendais juste le moment de pouvoir le faire. Okay. Ça a commencé à 12 ans. Si j'avais un peu avant, je l'aurais fait. Puis ça a débuté là. Puis j'ai vu une compétition d'homme fort à télé à 12 ans. Puis là, ben, je savais exactement ce que je voulais faire. C'était ça.
Ah, à 12 ans, tu savais qu'un jour, tu allais faire des compétitions d'homme fort?
Non, à 12 ans, je savais qu'un jour, j'allais être l'homme le plus fort du monde. Je suis allé voir ma mère, puis j'ai dit ça, là. Mais tu sais, tu lances ça en l'air. Puis moi, bien, encore une fois, on vient d'un milieu défavorisé.
Ouais.
La vie n'est pas facile. Le travail, c'est saisonnier. On n'a pas beaucoup de sous. Donc, pour moi, c'était devenu une façon de m'accrocher à quelque chose qui allait me permettre de sortir du futur qui m'attendait.
OK.
À prime abord. On regarde ça un peu comme si tu vas aux États-Unis, puis tu arrives dans les ghettos, puis tu es un athlète qui vient du ghetto. Donc, pour lui, d'aller à l'école, les chances sont très minces. Puis il se met à jouer au football, puis il est bon. Puis là, il vient de le chercher, puis il l'emmène. Puis là, il y a une carrière dans la NFL. Puis là, bien...
Sa vie est changée.
Sa vie est changée. À cause de quoi? À cause du sport. Donc, ça a été sensiblement la même chose, mais dans un véhicule que finalement, il n'y avait pas de route de tracé. Tu sais, bien, tu joues au football, t'es bon, viens te chercher. Ils vont t'emmener à bon port. Homme fort, c'est assez abstrait comme objectif. Mais pour moi, j'ai vu ça un peu comme le phare qui te permet de garder la bonne direction. Parce qu'à travers ça, en voulant me rendre là, ben, j'ai compris que plus je m'entraînais, meilleur étaient les résultats. Mieux je mangeais, meilleur étaient les résultats. Plus je travaille fort, meilleurs sont les résultats. Mais là, si j'applique ça dans d'autres choses, ben, dans les études, ben, plus tu étudies, plus que tes résultats, meilleurs sont tes résultats. Mais ben, moi, ben, je me suis ramassé que j'étais un premier de classe. Parce que ce que je voulais, c'était réussir. Puis j'ai compris que le seul moyen de réussir, c'est de donner tout ce que tu as et de travailler le plus fort possible. Puis au final, le résultat va être meilleur que si tu travailles moins.
Fait que tu t'es donné une discipline. Est-ce que tu étais, je sais pas, t'étais-tu un bagarreur quand tu étais sur la Côte-Nord, quand tu étais jeune?
Non, jamais été. J'ai pas eu besoin. J'ai été différent physiquement.
J'ai été différent, oui.
Oui, puis j'ai appris très tôt à réaliser que finalement, tu sais, les différences quand tu es jeune, ça dérange.
Ouais.
Même quand tu es adulte. Quand tu vois quelqu'un qui sort du lot, ben, les gens le remarquent, puis souvent, c'est de façon négative. C'est très rare qu'on va voir quelqu'un qui se démarque à cause de son physique, à cause de son allure, puis qu'on va avoir des qualificatifs qui vont être positifs. Généralement, c'est l'inverse, puis c'est pas différent à l'époque, puis c'est pas différent maintenant aussi. La seule chose, j'étais pas victime de taxage parce que j'étais plus costaud que les autres.
Ouais.
Mais en même temps, ben, l'ignorance, ça fait mal ça aussi, parce que tu te sens pas comme si tu faisais partie de la gang. Fait que moi, ça c'est venu sur le tard. Puis je me suis commencé vraiment à me réaliser quand je suis arrivé en ville. Puis là, j'ai commencé justement à travailler à Dagobert, à m'entraîner dans les gyms. Puis là, ben, tout d'un coup, ta différence devient un atout.
Ouais.
Puis là, ben, ça devient cool. Puis là, ben, tu commences à faire des amis. Puis là, ben, tu tournes ça en positif, puis tu grandis de ça.
Ça t'a-tu déjà nuit? Parce que souvent, quand je jase avec des gens qui ont des physiques hors normes, ils disent tout le temps, ben, tu sais, moi, j'ai apprécié longtemps d'avoir un physique hors normes, mais tu sais, n'en demeure pas moins que pour les chaussures, c'était compliqué dans le temps. Aujourd'hui, c'est moins compliqué avec Internet ou les boutiques qui sont spécialisées. Les vêtements aussi, aujourd'hui, il y a des boutiques spécialisées. Mais quand tu étais sur la Côte-Nord, ça n'existait pas. Tu sais, ils t'organisaient comment?
Ben, tu te débrouilles, puis, tu sais, j'étais chanceux. Moi, une de mes tantes est couturière, fait qu'elle me faisait du linge après ça. Mais ben, quand je suis arrivé ici, ma blonde à l'époque...
Elle était couturière aussi.
Elle était couturière aussi. Fait que tu comprends que finalement, tu choisis les gens qui t'entourent en fonction de tes besoins. Puis, ça l'aide. Puis, tu sais, tu portes du linge qui est trop grand ou tu portes du linge qui est trop petit. Puis, tu sais, d'où ce que je venais, là, souvent, c'était du linge qui avait appartenu à mes oncles. Donc, c'était pas rare de porter des vêtements qui étaient déjà usés.
Ouais.
Donc, c'est le lot des familles qui avaient beaucoup d'enfants ou des familles à faible revenu.
Puis, avez-vous toujours eu une forte stature dans votre famille?
De façon générale, je te dirais oui. Oui. Mon père était costaud. Mes oncles étaient costauds. Ça venait du côté de sa mère. Fait que lui, les oncles à mon père, c'est 6 pieds 4, 6 pieds 5.
OK. Puis quand tu es arrivé à Québec, parce que tu sais, moi, quand j'ai rencontré la mère de mes gars, sont issus d'une lignée de nains. Ça va vraiment tout à 5 et 2, 5 et 3. Ça incluait mon beau-père que je rencontrais, il a peut-être 18 ans, tu sais. Puis leur maison était faite à l'ancienne aussi, avec des petits comptoirs plus bas et tout ça. Puis je leur disais à quel point, tu sais, mais parce que vos comptoirs sont plus bas que la norme, là. Puis c'était une maison qui était ancestrale. Puis on a compris que dans l'ancien temps, ben les gens étaient plus petits. Puis, mais la société aujourd'hui est faite pour les gens de quoi? 5 et 8 jusqu'à peut-être 6 pieds. Puis, mettons, 200, 220 livres. Mais quand tu commences à dépasser ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Là. Tu sais, quand tu vas dans des cabinets de toilettes, des fois, tu te dis, tabarouette, à quoi ils ont pensé de faire ça si petit?
Je pense que dans toutes les constructions récentes, on vit plus ça. Puis tu le vois maintenant, il y a des boutiques spécialisées pour les petits, puis il y en a pour les gros. Donc, on a la chance de vivre dans un monde qui a évolué et qui s'est adapté. Puis l'autre chose aussi, on est très américanisé. Puis les Américains là, sont plus grands et plus gros que nous autres.
Ouais.
Donc, il y a des options pour trouver des vêtements pour s'habiller. La même chose au niveau des chaussures. Il y a une boutique à Repentigny. Ils se spécialisent de 14 jusqu'à 21. Donc, tu ne peux pas aller là si tu portes en bas de 14.
Exact.
Excuse, 13 jusqu'à 21.
Ta première voiture, ça a été quoi, Gaugeron?
Mazda GLC, 1983.
Tu rentrais-tu de côté?
Ben, encore une fois... Tu sais, possiblement que si je me regardais rentrer dedans maintenant, je trouverais que, ça rentre serré. Mais à l'époque, d'avoir une voiture, c'était un luxe. Que j'étais bien content de rentrer dedans.
Okay. Quand tu es arrivé à l'école de police, quand tu es arrivé, c'était au cégep Garneau que tu étais, toi?
Oui, j'ai fait ça à Garneau.
OK. Ils t'ont vu arriver, ils t'ont dit quoi?
Pas grand-chose. Moi, c'est plus... quand je suis arrivé à l'école de police. Puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler comme policier. À l'école de police, là... eux ne m'attendaient pas, là. Ça, c'est clair. Un gars de ma stature ne devait pas être en mesure de pouvoir passer les tests physiques. On parle ici des tests de course. Donc, le fameux test Cooper, on devrait courir 12
paliers,
minutes.
Ça?
Non, ça, c'est léger bouché, je crois.
Ouais.
Puis le test Cooper, c'est 12 minutes, puis tu as une distance minimum à accomplir pour pouvoir passer le test. Nonobstant tes résultats dans le musculaire, qui te permettaient d'abaisser le nombre de kilomètres nécessaires, mais il y avait quand même un minimum. Puis quand tu pèses 300 livres, tu n'es pas nécessairement le physique d'un coureur. La dernière année de technique policière, mon coordonnateur en TP m'avait fait venir dans son bureau pour me dire que je devais peut-être penser à perdre du poids parce que l'année d'après, pour la sixième session, j'allais devoir passer les tests physiques. Puis en bout de ligne, les autres veulent former des futurs policiers et non quelqu'un qui va suivre le cours et qui ne travaillera pas comme policier parce qu'il ne passera pas les tests physiques. Puis là, il avait répondu, occupez-vous de me donner la formation, je vais m'occuper de la préparation.
Oh!
Moi, dans ma tête, il n'y avait aucun doute. La préparation, puis l'entraînement...
Ça faisait partie de ta vie.
Oui, la discipline fait partie de ma vie. Je me suis préparé, j'ai passé la sixième session, ça a bien été. Quand je suis arrivé à l'école de police, bien là, c'est une autre histoire, dans le sens que, là, là-bas, tu portes des uniformes. Mais la première semaine, bien là, c'est un peu comme une initiation à la vie à l'école de police. Puis il y a des tests physiques qui vont te permettre de déterminer ceux qui restent et ceux qui partent. Donc, moi, bien, j'ai passé mes tests. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que quand on est allé chercher les uniformes, bien là, il n'y a rien qui me faisait. Fait que c'est là que j'ai compris qu'eux, ils avaient probablement gagé sur le fait que je ne passerais pas les tests. Donc, on n'a pas pris aucune mesure pour faire en sorte d'avoir de quoi qu'ils allaient me faire. Fait que ça a été quand même assez rigolo comme situation.
Oui. Puis tout l'équipement que vous devez porter, ça devait être assez complexe. Quoique dans votre temps, est-ce que c'était obligatoire les chemises par balles?
Mais là, je n'étais pas policier encore. À l'école de police, on n'avait pas la veste par balle. Je l'ai eu quand je suis devenu policier.
Okay.
Mais ce n'était pas obligatoire. Donc, bien souvent, il fallait qu'on l'achète soi-même. Ou bien le corps policier payait la moitié, tu défrayais l'autre moitié. Et là, ça devenait une pièce obligatoire que tu voulais porter. Donc, moi, je ne la portais pas. Puis quand je suis arrivé dans la police à Gatineau, j'ai travaillé ma première année en jeans.
Parce qu'il n'y avait pas de
pantalon.
C'est incroyable quand même. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça, Hugo, là.
Non, mais maintenant, je pense qu'ils sont mieux préparés à ça. Ouais. Mais t'arrives encore, t'es à une autre époque. Là, j'étais un peu comme un martien. Là. Les gars de 300 livres, maintenant, on en voit plus.
Ouais.
À ce moment-là, t'en voyais pratiquement pas. Puis c'était pas le même genre de 300 livres non plus lorsqu'on les voyait. D'ailleurs, le seul pantalon qu'il y avait trop qui me faisait pour que les cuisses passent, mais j'avais un taille à peu près... je dois avoir un pied de taille de trop. Là. Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai passé... c'est ça, en jeans. On a travaillé en jeans, puis à l'école de police, ben, j'ai fait mon stage en civil.
Ah oui?
Ouais.
Puis le maniement d'armes, est-ce que c'était compliqué? Je veux dire, t'as quand même des bonnes mains.
Non,
là.
Ça
c'était correct.
Ça, c'est correct.
Ça, c'était adapté à quelqu'un de ta stature, pour ce qui est de tes mains, du moins.
Ben, lorsqu'on arrive avec des objets comme ça, le PR-24, puis différents accessoires, ben, c'est assez généralisé. T'sais, un revolver, il y a quand même une bonne crosse. Donc, ça a été pensé en fonction de possiblement l'armée en premier lieu, puis... tu le tiens dans ta main, puis ça fit, ça serait, à moins d'être Jean Ferré, que le doigt passe pas là, dans le pontet, la part des gens, le doigt va passer.
Jean Ferré, j'ai lu sa biographie, je veux dire, quelle vie il a connue. C'est un gars qui a été considéré comme un animal de cirque pendant des années et des années. Je sais pas si tu l'as lu toi aussi, mais à la fin, là, je veux dire, il était plus parlable, là, tellement qu'il était écœuré de se faire parler tout le temps, puis de se faire traiter de cette façon-là. C'est un gars qui buvait beaucoup aussi, ça a l'air que c'était compliqué le faire boire, parce qu'il n'y avait pas de limite. Là.
C'est très contradictoire dans le sens que il en a quand même bénéficié beaucoup, puis il l'a quand même utilisé.
Oui.
Donc, oui, t'es tanné, mais en même temps...
Ça te sert.
Ça lui servait, puis il l'a utilisé à bon escient, dans le sens qu'il l'a utilisé jusqu'à en abuser, parce qu'à la fin, ça devait pas être facile pour lui de lutter, puis il continuait de le faire. Pourquoi? Parce qu'il gagnait sa vie comme ça. Puis en même temps, mais tu deviens plus parlant parce que t'es tanné d'avoir l'attention que ça te donne. Si t'es tanné de ça, fais plus ça.
Ouais. T'as-tu déjà été tanné de ta stature? Puis de t'en faire parler constamment? Tu dis-tu des fois, à un moment donné, parle-moi d'autres choses, les boys, je suis plus capable?
Moi, je vis plus ça de même.
Non.
C'est plus quand j'étais plus jeune, ça a pris du temps, mais j'accepte le fait d'être différent. Puis à partir du moment que j'acceptais ça...
C'est parti.
Parce que moi, je me vois pas de façon différente. C'est plus les autres. Puis c'est les gens qui changent, c'est pas moi. Moi, je suis le même gars que j'étais quand j'avais 12 ans. Fait que je considère pas que je suis différent. Quand je viens de te m'habiller, je comprends que je suis pas dans n'importe quoi. Puis il y a des situations qui sont quand même assez cocasses. Mais la majorité du temps, moi, je me considère normal. Puis mon physique est normal pour moi.
Quand tu arrivais avec les clients que tu rencontrais pendant ta patrouille, ça fonctionnait comment? T'sais, le gars qui débarque de son char, il n'a pas de chemise par balle, il est avec ses jeans, puis il est à côté de d'autres collègues policiers qui sont un peu plus petits. Tu ne devais pas avoir à t'ostiner longtemps.
J'ai réussi, puis encore une fois, c'est une énergie que tu dégages, du non-verbal, il y a plusieurs facteurs, puis il y en a certains peut-être que je connais pas. C'était très facile pour moi d'interagir avec les gens, puis de tourner ça à mon avantage. Donc, la plupart du temps, il m'arrivait d'arriver des situations qui étaient... que ça brassait pas mal.
T'es tendu.
Oui, tendu. Puis des fois, ça brassait, puis là, j'arrivais, puis ça désamorçait tout. Puis moi, c'était correct que ce soit moi qui les arrête. Il était content de me parler à moi, comme si à cause que t'es plus gros, puis t'es différent, t'as comme plus de pouvoir que les autres. Puis là, tu sais, c'est juste une question, là... de communication, puis de respect, puis il y a une énergie qui se transfère où c'est qu'à un moment donné, puis ça, je l'ai utilisé souvent dans mon expérience quand je tournais aux États-Unis, quand tu traites les gens de la manière que tu voudrais être traité, ça veut dire mais le respect. Puis le respect, mais il faut que tu respectes les autres, puis il faut que tu te fasses respecter. Et ça, mais ça se dit pas dans des mots. Ça va se sentir dans la manière que tu vas parler, dans la manière que tu vas marcher, dans la manière que tu vas bourrer, dans la manière que tu vas regarder. Ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tu demandes le respect puis tu le commandes, mais en même temps, tu le donnes. Et ça, mais quand tu arrives avec des gens, puis pour l'avoir vécu à plusieurs reprises comme policier, où ce que là, mais tu sais que ça peut déborder, à un moment donné, ils comprennent vite avec quelles personnes qui peuvent le faire et ne pas le faire. C'est un peu comme l'enfant quand sa mère, il dit « Là, si t'arrêtes pas, mais le dire à ton père. » Puis l'enfant continue. Quand le père, il dit « Hey, là, t'arrêtes ça. » Le jeune, il sait là, que « OK, là, ça vient d'arrêter. » Puis le père n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Mais juste dans la manière qu'il lui a dit, il a compris « OK, là, il faut que ça arrête. »
Impose
le
respect.
C'est exactement. Il faut que tu imposes le respect. Puis moi, mais je suis quelqu'un qui... tu sais. Moi, ce que je me suis battu longtemps, c'est pour être respecté avec ma différence. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu respectes les autres comme ils sont.
Ouais.
Parce que tu veux l'avoir en retour. Donc, ça commence par le donner toi-même.
Je vais te poser une question, tu peux me répondre ou pas, mais c'est-tu compliqué d'avoir une blonde quand on a ta stature?
Non, pas vraiment.
Non?
Non, non.
Ça fait pas peur?
Aux filles?
Ouais.
Ça, c'est un peu comme le concept du gorille. Tout le monde qui va au zoo veut voir le gorille.
Ouais.
Mais c'est pas tout le monde qui veut l'amener à la maison.
Mais y en a-tu déjà qui t'ont dit, Hugo, excuse-moi, là, je te trouve super intéressant, t'es brillant, on parle de plein de sujets, mais je me vois pas faire ma vie avec un gars qui a ta stature.
Ça m'est jamais arrivé.
Tu t'entraînes comme un cheval, parce que tu t'entraînes comme un cheval, là?
Mais ça m'est jamais arrivé. Peut-être que ça l'a été, puis on me l'a juste pas dit. Là, mais je pense qu'à quelque part, ça c'est... quelque chose qui m'a été dit à quelques reprises.
Moi, ma blonde, elle me dit que je coûte cher d'épicerie. J'ose pas imaginer tout ce que tu dis.
C'est moi qui paye mon épicerie, donc c'est pas un problème pour personne. Tu sais, souvent, les gens me disent, quand tu parles pas, t'es imposant, puis tu peux avoir l'air intimidant. Mais il dit, quand tu te mets à parler, c'est comme si on oublie ton physique. Et là, tout d'un coup, tu deviens normal, puis on n'y pense plus. Ouais. Je pense que ça a beaucoup à voir dans ta manière de communiquer avec les gens. Puis je pense qu'avec les femmes, c'est la même affaire. C'est que, à un moment donné, si t'as des choses intelligentes à dire, si t'es plaisant, si t'es drôle, si t'es gentil, puis s'il y a une attraction à quelque part, tu sais, je pense que ça va se déterminer assez vite quand la personne te plaît ou te plaît pas. Parce que tu vas pas plus loin quand la personne te plaît pas, mm-hmm. parce que tu le sais que ça ira pas plus loin. Donc, je pense que si le physique est un problème, ben, ça se développera pas jusqu'au temps de devenir une décision à prendre si on va aller de l'avant ou pas parce que ton physique me plaît ou me plaît pas. Je pense que ça fait partie d'un ensemble.
Ouais. Non, je comprends. Est-ce que tu t'aimais ça être policier, Hugo?
Oui, j'aimais ça être policier. Ouais. Je trouve que c'est un travail qui est très noble.
C'était-tu un de tes rêves?
Pas un de mes rêves. C'était pas mon choix premier quand j'étais jeune. Mais lorsque j'ai fait des tests pour déterminer mon choix de carrière, le métier de policier sortait très fort au niveau du type de personne que j'étais.
Ouais.
Psychologiquement. T'sais. Moi, je crois dans la justice, défendre le faible, d'aider les gens.
Ça faisait partie de tes valeurs.
Ça fait partie bien gros de mes valeurs. Puis je me reconnaissais beaucoup dans le travail policier. Ce qui me plaisait moins, c'est le côté politique de la job, qui malheureusement fait partie de la job parce que le bras de la police, donc la sécurité publique, ouais. Il est directement relié politiquement mais au leader politique. Donc, tu te rapportes ici, le chef de police rapporte à la mairie. Donc, le chef de la SQ se rapporte qui? Au premier ministre.
Ouais. Normalement, c'est supposé être indépendant, mais on sait très bien que des fois, il y a des orientations qui sont données par les paliers ben, supérieurs.
C'est eux qui décident de ça. Ils prennent des décisions qui vont influer sur tout ce qui est en bas.
Ils décident qui va être le chef de la Sûreté du Québec.
Bon, et voilà. Et le chef de la Sûreté du Québec va donner la couleur,
oui.
toujours dans le respect des lois qui sont données, encore une fois, parce que c'est les gouvernements qui votent les lois.
Ouais.
Oui, on a des façons de le faire. On comprend que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais ça revient à ça. Puis quand tu es au niveau municipal, ben c'est. Là, on va jouer ces termes. C'est pas de la petite police, mais c'est de la petite politique. T'es pas au niveau national. Donc, c'est ramené plus petit, c'est un territoire plus petit. Puis là, ben, des fois, ça crée certaines choses qui font en sorte que je pense qu'on gagnerait beaucoup au niveau de l'ensemble de la police si c'était tout généralisé. Puis tu avais une seule police pour l'ensemble du territoire. Donc, l'information, le partage de l'information. Donc, il n'y aurait plus vraiment d'endroit où qui se perdrait. La personne qui est connue. Qui est connu ici à Québec, mais dans le système, elle serait connue ailleurs aussi.
Oui, exact. Il me reste deux questions pour ce qui est de la police, puis après ça, on va parler d'un autre sujet. C'est quoi le plus palpitant que toi t'as fait comme policier? T'sais? Qu'est-ce que tu dis? Ça fait partie de mes souvenirs comme policier, là, puis t'sais, je veux me souvenir de ça toute ma vie. J'en reviens pas que ça soit passé dans ma vie. Là.
Hey, ça, c'est une bonne question.
T'as-tu fait partie des grosses opérations? T'as-tu croisé des mafieux? Est-ce que t'as-tu été...
Moi, c'est pas ça que je retiens de mon travail dans la police. Ce que je retiens de ma vie de policier, c'est l'impact que ça a eu sur ma carrière d'athlète.
OK.
Parce que moi, la ville de Gatineau m'a vraiment adopté. Je suis arrivé là-bas, t'es un gars de la Côte-Nord qui a étudié à Québec. J'ai été engagé à Gatineau. Puis, c'est la partie bizarre parce que je travaillais en jeans. C'est même un des premiers policiers que je rencontre au poste. Tiens, c'est lui le gorille. Fait que je m'en souviendrai tout le temps. Puis éventuellement, c'est devenu un de mes amis, un chum. Mais là, tu sais, la police à l'époque, c'est différent. Là. Maintenant, je peux pas dire parce que je suis plus là, mais à cette époque-là, là, on était sur la limite où ce que la police, il y a eu des années où ce que c'était rough. Là. Fait que là, on était encore à la fin de ça, mais là, il y avait des gros changements. Là. C'est comme une nouvelle génération. Puis là, ben, je suis comme sur le bridge entre les deux. Puis la ville a vraiment eu un impact au niveau de la ville de Gatineau sur ma carrière parce que quand j'ai commencé à faire des compétitions d'hommes forts, au lieu de me mettre des bâtons dans les roues, ils m'ont contacté pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour m'aider. Puis j'ai vraiment senti là, que non seulement mon employeur, mais les citoyens de la ville de Gatineau...
T'es derrière toi.
Oui, t'es derrière moi. Puis ils m'ont vraiment encouragé. Puis les médias locaux, ça a vraiment une tournure. C'était un peu comme si éventuellement... Tu sais, moi, chez nous, là, mes parents n'étaient pas très impliqués. La claque dans le dos venait pas souvent. Et là, tout d'un coup, t'avais des gens qui croyaient en toi. puis que là, ils t'encourageaient pour continuer, puis t'es rendu fier les autres aussi. Puis là, tu te sens pas tout seul dans ta démarche. Puis c'est ça que ça a eu pour moi. Puis c'est ce que je me souviens là, de l'impact que ça a eu dans ma vie, pas juste ma carrière.
Tu avais un désir que tu as eu très, très tôt dans ta vie, c'est-à-dire de devenir l'homme le plus fort du monde. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que tu es parti de la police de Gatineau?
Non, parce que j'ai remporté le titre de champion du monde en 2002. J'ai quitté la police en 2008. La raison pour que je suis parti, c'est... tu commences à avoir une certaine popularité. Puis là, ben, même sur la fin, parce qu'ils m'ont libéré sans solde à partir de 2001 pour me concentrer sur ma carrière d'athlète. Puis même à la fin, parce que j'ai commencé à faire des concours internationaux en 98, donc le rayonnement était quand même assez grand. Il m'arrivait des situations cocasses où j'allais faire une intervention, mettons, pour une introduction par infraction qui a eu lieu la veille, puis t'arrives chez les gens, puis là, c'est toi qui débarques là. C'est un peu comme si Guy Lafleur était débarqué chez nous.
Ouais.
Fait que là, la
j'ai
maison...
plusieurs questions.
Ouais. Et là, les photos, puis là, on appelle les voisins, puis Hugo Gérard est ici, puis il venait le voir. Donc, ce qui devenait banal, puis qui aurait dû prendre une demi-heure, 40 minutes, en prenait une heure et demie. Donc, en 2008, quand j'ai pris ma retraite des hommes forts, et là, je devais revenir travailler comme patrouilleur. Nous, on était en négociation avec la ville pour créer un poste aux communications où j'aurais gardé le statut de policier. Mais j'aurais été sous le. J'aurais pas été dans l'organigramme de la police.
Je comprends.
Donc, un peu comme un policier communautaire, mais pas rattaché à la police, mais rattaché à la ville. Donc, je suis devenu un col blanc. Puis, là, le directeur général de la ville était dans ça, la mairie était pour ça aussi. Là, il y avait. Tu sais, t'es dans un domaine, là, on crée des précédents.
Ouais. Il y avait beaucoup d'amour pour toi, en tout cas.
Oui, beaucoup, beaucoup. Puis là, il y a eu les élections. Et là, ben, le maire en place a sauté, puis il en arrivait un nouveau. Donc, tu arrives avec un nouveau conseil de ville, il y a plein de choses. Là, ça a été mis sur la glace. Mais moi, par contre, j'ai une date de retour. Parce qu'à partir du moment que j'ai pris ma retraite d'athlète, là, mon statut sans solde, ben, là, était remis en question. Puis là, je devais revenir. Là, je reçois une lettre, j'ai une date pour revenir. Puis là, à ce moment-là, je reviens, je ne suis pas affecté au même poste. Parce que nous autres, on avait trois postes. Gatineau, Hall et Elmer, parce qu'on avait des postes rattachés pour se rapporter pour mon travail. Là, je partais, moi, j'habitais à Gatineau. Il fallait que je me rapporte à Elmer. Le matin, elle se rend à Elmer dans le trafic de là-bas. Ça veut dire que tu vas partir une heure et demie avant le début de ton chiffre. Mm-hmm. Puis c'est pas ça vraiment que je voulais. Puis en plus, je me disais, c'était compliqué à l'époque. Comment tu penses que ça aurait été, six ans plus tard, encore plus populaire? Mais ça n'aurait pas été plaisant pour moi, puis ça n'aurait pas été plaisant aussi pour mes confrères. Et là, il aurait fallu que je mette des limites. Puis là, ça devient pas cool parce que t'es censé être le bon gars. Puis là, pas sûr que les gens auraient trouvé ça nécessairement le fun. Là, tu deviens au lieu de la personne qui est super gentille, qui est super cool, là, tu deviens la personne qui a l'air bête. Tout ça parce qu'il faut que tu fasses ton travail. Puis j'avais des opportunités d'affaires, ce qui m'a amené à dire, ben là, j'ai pris une décision. Puis au lieu de rester assis entre deux chaises, ben, j'ai décidé de couper le filet puis de voler mes propres ailes.
Est-ce que c'est encore à ce jour que tu considères que ça a été une bonne affaire? Que c'est à ce moment-là, tu t'es dit, regarde, moi, j'avais des opportunités d'affaires, je pouvais devenir un homme d'affaires, j'avais le goût de l'aide. C'est encore une bonne décision que tu as prise?
Je peux pas dire que c'était une mauvaise décision. Quand je regarde la tournée des événements, je mène quand même une bonne vie. J'ai fait plein de choses que j'aurais pas fait sûrement. Mm-hmm. Ça aurait été sûrement différent. Qu'est-ce qui serait arrivé? Tu sais... J'ai la chance de ne pas vivre une vie ordinaire, de ne pas faire des choses ordinaires. Puis, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours fini par ne pas être ordinaire. Fait que probablement que j'aurais pris cette direction-là, ça l'aurait emmené à d'autres choses. Tu sais, dans la vie, là, tu tournes à droite, ça t'emmène à un endroit. Tu tournes à gauche, ça t'emmène ailleurs. Est-ce que c'est à la mauvaise place? C'est au final que tu le sais. Donc, je suis à l'endroit où je dois être parce que c'est les décisions que j'ai prises. Tu les assumes, puis je suis bien content parce que de là, ben, si on regarde la tournure des événements, j'en ai fait quand même du chemin depuis ce temps-là.
Vraiment.
Je vais être honnête avec toi, j'ai dépassé de beaucoup...
tes objectifs.
Mes objectifs. Ouais. Je meurs demain matin, moi, là, j'en ai fait plus que qu'est-ce que je pensais faire, et pas mal.
Tu y penses-tu à chaque soir quand tu te couches?
À quoi?
Ben, à merci. J'ai une petite belle vie. Tout va bien.
Moi, ce que je pense à tous les soirs, là, c'est ce que je vais faire demain.
Ah ouais? Moi, à chaque soir, j'ai toujours cette réflexion-là. Mes enfants vont bien. Moi, je vais bien. Ma conjointe va bien. La mère de mes gars va bien. Les gens autour de moi que j'aime, ils vont bien. Je sais pas à qui je parle, mais je dis merci. Puis je me relève le lendemain, puis je repars.
Ah, t'as vu? Je peux pas dire ça, on appelle ça de la gratitude. J'ai de la gratitude, mais ce qui est derrière est derrière.
Ouais, tu vis pas dans le passé.
Je vis pas dans le passé, je vis en avant.
Ouais.
Fait que là, moi, là, j'ai des plans, puis maintenant, si tu me demandes, moi, j'ai pas de manquer de temps.
Ah ouais?
Pour tout faire ce que je veux faire.
Tu as plein de projets encore.
Ouais.
Ouais.
Je suis un gars, moi, qui se fixe des objectifs. Après ça, je travaille pour les atteindre. Fait que je suis bien fait parce que je vis pas beaucoup d'insécurité. Fait que, mais on dirait que ça me prend du stress dans ma vie, puis le stress de... Maintenant, c'est plus de soulever la charge la plus lourde.
Ouais.
C'est que je me fixe un objectif, puis là, je veux l'atteindre. Puis quand je l'atteins, OK, là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là?
Es-tu dopé à l'adrénaline? C'est peut-être ça, des fois?
Je pense que oui.
Quand c'est trop relax, non, ça me prend un peu plus de d'action.
Quand je vais en vacances, là, c'est après trois jours, c'est terrible. Là. J'ai juste l'impression que je perds mon temps, puis que je gaspille du temps. Fait que j'ai eu ça d'en revenir.
Moi, j'ai réglé ça. D'habitude, je fais des petits 10 km puis en marche, par exemple, dans le sud. Puis là, à cette heure, c'est rendu des 30 puis des 40 km. Je me brûle un peu le matin. Puis je reviens dans l'après-midi. Puis je suis correct. Là. Mais j'ai réglé ça de cette façon-là quand je suis dans le sud. Tu as fait le tour du monde, Hugo, en étant homme fort. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette belle carrière-là? Tu t'es entraîné toute ta vie. Tu es devenu le meilleur homme fort sur Terre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette belle carrière que tu as eue-là? Est-ce que c'est la difficulté d'arriver à ce stade-là?
Non, ce qui m'a le plus marqué, c'est là que j'ai compris que je pouvais devenir tout ce que je voulais, si je le voulais vraiment. Tu sais, pendant que tu cours 20 ans, après quelque chose pour essayer de l'accomplir, puis la plus grande réussite, ça a été d'emmener les gens à croire en moi, puis à me voir de façon différente, puis à me respecter comme un athlète. Ça, pour moi, c'est important. Puis là, tout d'un coup, tu sais, au début, quand tu disais tu vas être l'homme le plus fort du monde, c'est quoi ça, un homme fort? Ça fait quoi? Tu vas faire ça où? À un moment donné, t'en parles plus. Parce que tu te fais regarder un peu comme un weirdo.
Ouais.
La seule affaire que j'avais pour moi, c'est que j'étais costaud. Fait que il riait sûrement pas de moi dans ma face, mais peut-être qu'il le faisait en se disant, c'est parle-moi d'un bizarre. Tu sais, ma mère m'appelait, puis là, qu'est-ce que tu fais? Mais là, je travaille, je m'entraîne. Puis là, mais pourquoi tu t'entraînes? Parce que mais un jour, t'es l'homme le plus fort du monde. Mais là, arrête donc, là, tu vas finir par te faire mal. Ça avait raison là-dessus, parce qu'il finit par me faire mal. Mais tu comprends que ton rêve, t'es tout seul à y croire, mais moi, j'ai toujours cru. Puis quand c'est arrivé, là, tu fais, OK, si j'avais pas cru, ça serait jamais arrivé. Si j'avais arrêté, ça serait jamais arrivé.
Ouais.
Donc, au final, là, c'est nous qui déterminons des limites de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis moi, ce que j'ai compris de tout ça, là, quand je regarde mon trophée là, de champion, là, ce que je vois, c'est pas ce que j'ai fait. Ce que je vois, c'est que j'ai réalisé ce jour-là que je pouvais être tout ce que je voulais, si je le voulais vraiment.
Ouais. Puis tu peux en être fier de ça. Puis il y a énormément de gens qui... moi, j'ai assisté à une conférence de Georges St-Pierre. Je connaissais pas Georges St-Pierre. Je connaissais le gars du UFC qui était un exceptionnel. Puis il disait, tu sais, les gens prennent pas conscience de tout ce que ça prend pour devenir champion du monde. Puis après ça, c'est là que la pression commence parce que tu es champion du monde, tout le monde t'observe et là, tu veux rester champion du monde, mais tout le monde t'analyse puis ils font les mêmes affaires que toi puis ils veulent te battre, toi. Les gens prennent pas, ils ont pas conscience de tout ce que ça prend pour se rendre où vous vous êtes rendu, tu sais, toi puis Georges St-Pierre. Vous avez été les meilleurs à un certain moment de votre vie sur la planète. C'est fou raide quand on y pense, là. On est quoi, 8 milliards d'humains sur Terre? Puis vous autres, vous êtes parvenus à pogner des trophées que la plupart des gens ne l'auront jamais.
Ouais, mais en même temps, moi, je la regarde pas sous cet angle-là. Je le regarde. Moi, là, mon titre, là, ben, c'est pour toi, c'est peut-être d'autres choses.
Ben, moi, je trouve ça exceptionnel. Je veux dire, c'est quand même. C'est pour arriver là, vous êtes plusieurs à avoir voulu être homme fort. Il y en a très peu qui ont réussi à être les hommes les plus forts du monde, mais t'sais, vous faisiez les choses différentes des autres. Vous vous entraînez mieux, vous nourrissiez plus, vous travailliez tout le temps plus fort. Pendant que les gens prenaient peut-être des petits breaks, vous autres, vous continuiez à être au gym, à travailler encore plus fort. C'est des efforts que vous avez mis.
Oui, mais je suis 100% d'accord, puis c'est vrai. Là, t'sais, moi, le temps des fêtes, là, l'année que je l'ai gagné, je me suis entraîné tout le temps des fêtes. Je me suis couché à 10 heures la journée du réveillon parce que le lendemain matin, j'avais un training. Fait que c'est des sacrifices que tu fais. Mais ce que je retiens de ça, c'est tous les outils que j'ai développés.
Ouais.
Parce que c'est encore ça que j'utilise aujourd'hui, mais de façon différente. Le plus beau cadeau que je me suis pas fait, là, c'est de faire ce cheminement-là.
Ouais. Mais mentalement et physiquement, vous êtes construits différents. J'étais en vacances, moi. J'étais pas en vacances, je faisais de la plongée sous-marine dans le sud de l'Ontario. me rappelle pas de la ville, mais je faisais de la plongée sous-marine, puis j'ouvre la télé, puis c'est Tom Brady, OK? Tom Brady a tout remporté. Puis il est en entrevue avec Bill Belichick, puis le journaliste. Puis le journaliste, il dit, Tom, ton dernier Super Bowl, t'as pas pensé prendre ta retraite? Il dit, non. Il dit, à quoi t'as pensé? Ben, il dit, à mon dernier Super Bowl, j'ai pensé que j'allais en avoir un autre. C'était ça, je pensais. C'était de gagner un autre Super Bowl. Puis là, j'étais là, hey, Chris, vous êtes fait vraiment différent.
Tu sais, quand j'ai gagné le titre en 2002, j'étais à l'hôtel, puis là, ma blonde me regarde. Elle dit, Chris, elle dit, Hugo, t'as pas l'air content. Là, j'étais couché sur le livre. Elle dit, ah, pas content, mais j'aurais pu être meilleur.
Oh boy, OK.
Parce que il y a certaines épreuves. Tu sais, au final, d'avoir gagné, t'as été le meilleur cette journée-là. Mais le vrai défi, c'est d'être le meilleur de toi-même.
Ouais.
Puis j'aurais pu être meilleur. Donc, c'est un concours de circonstances. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis entraîné, j'ai performé, mais j'ai quand même fait des erreurs. Il y a des affaires que j'aurais pu faire mieux. Fait que c'est là que j'ai compris que le but, là, c'est pas de gagner un trophée. Je pense que j'aurais eu autant de satisfaction à terminer troisième, mais avoir tout donné, puis savoir que j'ai vraiment tout donné, que de finir premier, puis savoir que j'aurais pu faire mieux.
Non, je comprends.
En fait, c'est une bataille contre toi-même.
Ouais.
Fait que ton vrai trophée, là, c'est pas à travers les yeux des autres, c'est à travers toi. Comment tu grandis intérieurement? Moi, là, c'est là que ça se passe, la bataille est pas avec les autres, la bataille est avec moi.
Avec toi-même.
Tout le temps.
Ouais. J'aimerais pas me battre avec ton toi-même. Il a de l'air aussi dur que toi.
Il est probablement plus dur que moi.
Plus dur.
Ouais.
J'écoutais une émission de survie qui est disponible sur Netflix. Puis il y a une fille qui, écoute, elle était dans les dernières participantes là, qui t'a fait. Il est donc dans le Nord. Puis il leur donne rien à part peut-être un canif ou, je sais pas, au moins une affaire pour allumer le feu. Puis il doit vivre là le plus longtemps possible. Puis la fille, quand elle a été exclue de l'aventure, elle a pris le téléphone, elle a dit « C'est beau, j'abandonne, il y a un bateau qui est allé la chercher. » Puis sur le bateau, elle a accordé une entrevue en disant « Savez-vous quoi, ce qui me déçoit le plus, c'est que c'est mon corps qui a lâché avant mon esprit. Mon esprit voulait rester là, puis mon corps a lâché, ce qui fait en sorte que j'avais pas le choix d'abandonner l'aventure. » C'est fort ce qu'on a dans notre tête. Là.
Puis tu vois, c'est là que les gens qui sont différents se démarquent. Parce que normalement, la tête lâche avant le corps. Parce que le corps, de l'exploiter au niveau de tes capacités physiques, souvent, il est plus capable que toi, tu vas être capable d'y aller au niveau d'endurer la douleur qui va t'emmener.
Ouais.
Donc, c'est ce qui fait en sorte que dans des circonstances exceptionnelles, il y a des gens qui vont passer au travers, puis tu n'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu la force de passer au travers de ça. C'est pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, ça se passe entre les oreilles. Ton corps, lui, moi, à l'entraînement, c'est ça qu'on fait. Là. On se conditionne. C'est là qu'on est différent, peut-être, toi puis moi, ou moi versus la majorité des gens. La majorité des gens, ils vont aller jusqu'au bout, mais leur corps est encore capable. Nous, on se conditionne ou est-ce qu'éventuellement, on se rend vraiment au bout du bout. Donc, la fille que tu me parles, c'est clair qu'elle, mentalement, était plus forte que son corps. Ça, c'est des gens exceptionnels. Pour développer cette force mentale-là, c'est pas tout le monde qui le font. Parce que pour arriver à ça, faut que tu aies souffert, il faut que tu aies poussé vraiment tes limites. Là.
La série s'appelle Alone.
Oui.
C'est une super de bonne série, puis on en apprend un peu plus sur le survivalisme et tout ça. Mais moi, ça m'avait marqué cette phrase-là. Elle était dans le bateau, elle était extrêmement déçue alors qu'elle avait poussé là, pratiquement à la limite. Là. Elle avait travaillé extrêmement fort. Elle dit non, ce qui me dérange, c'est que mon corps est lâché avant mon esprit. Puis en jazz, ça m'a servi. T'sais, de me souvenir de ça, ça m'a permis de jaser de ça avec toi. La douleur, souvent, on se fait des petits bobos. Moi, je joue régulièrement au hockey puis au deck hockey. Puis des fois, j'entends les gars se plaindre parce qu'ils ont mal au dos. Puis je jouerai pas la semaine prochaine. Toi, la douleur, ça a toujours fait partie de ta vie. Là.
Ah, ma douleur, mon meilleur ami. Ah, on s'habitue à ça. Honnêtement, la pire douleur, c'est pas celle-là.
C'est laquelle?
C'est la douleur mentale.
Ah ouais?
Ouais. C'est la douleur de l'échec, la douleur de ne pas avoir donné le meilleur de toi-même, la douleur d'avoir, même pas de sous-performer, de t'avoir battu toi-même. Tu sais, quand tu sais là, que peu importe, tu peux se faire battre par quelqu'un de meilleur que soi, là, ça c'est correct. Mais se faire battre parce que tu n'as pas fait tes devoirs, ça passe pas. Et cette douleur-là ne passe pas. Parce qu'à chaque fois que tu vas penser à ça, ça va te rappeler comment que tu as été lâche ou comment que tu n'as pas été au bout, comment que tu t'es triché toi-même. Parce que dans la vie, tu peux mentir aux autres, tu peux jamais te mentir à toi-même. Fait que quand tu te regardes dans le miroir, tu vois le vrai reflet de toi-même.
Ouais.
Là, je ne parle pas au niveau physique, je parle au niveau
de la personnalité,
ouais. Côté mental. Puis ça, ben, vivre avec ça, ça, c'est de quoi que je trouve extrêmement lourd quand que j'arrive pas à être à la hauteur, pas de mes attentes en niveau de performance, mais à la hauteur des standards que je me donne sur qu'est-ce que je dois faire pour arriver à atteindre mes objectifs.
Fait que la douleur physique a toujours fait partie de ta vie, t'as dû dealer avec régulièrement. C'est juste au niveau des douleurs de l'esprit que ça, des fois, c'est un peu plus dur.
Oui, c'est un peu plus dur. Parce que le physique, éventuellement, ça finit par passer.
Ouais. C'est-tu vrai la rumeur comme quoi t'aurais été approché pour faire le film Louis Cyr?
Oui. Oui, j'aurais aimé ça, mais j'étais pas un acteur.
Non?
Non.
C'était quoi tes difficultés? Tu n'étais pas capable de vivre tes émotions?
Non, on s'est même pas rendu là.
Ah non?
Non, c'est vraiment... J'avais passé l'audition, ça avait bien été, mais puis avec du recul, je comprends maintenant comment ça fonctionne. Tu sais, c'est quand même une grosse production, puis d'asseoir la production sur les épaules de quelqu'un qui n'a jamais joué. On parlait quand même de gros sous, c'est une grosse production, puis en même temps, ils ont fait de quoi d'exceptionnel avec. Oui. Puis Antoine Bertrand, j'ai participé à son entraînement, la préparation, les scènes de force, puis je dois dire que c'est un excellent choix, il a vraiment bien joué. Puis
finalement, quand tu as vu le film, tu étais content que toi aussi.
Ah, moi, j'étais vraiment content. Tu sais, j'ai pas vu ça comme j'avais perdu une opportunité. J'ai juste vu ça, j'ai eu la chance de pouvoir auditionner et de peut-être l'avoir. Puis au final, ben c'est un acteur qui l'a joué, puis c'est bien correct, c'est son métier.
Ouais.
Puis quand j'ai vu le film, j'ai fait « wow ». Ils ont vraiment fait un bon film. Je pense que c'était à la hauteur de la réputation de Louis Cyr. Puis au final, c'est bien plus ça qui est important.
Exact. Donc, Hugo Girard, un gars de la Côte-Nord qui est venu étudier à Québec, qui est devenu policier à Gatineau. Par la suite, c'est devenu un homme d'affaires. C'est aussi devenu l'homme le plus fort du monde. Là, on en est rendu au moment où tu rentres dans les médias. Ça a été quoi tes premières opportunités médias?
Bien, de mon association avec BMR, on a commencé à faire des commerciaux. Puis ça a vraiment bien été. Ça a été des bonnes pubs, ils ont eu des bons résultats, des bonnes revues. Puis,
pourquoi tu penses? Hein? Pourquoi ça a fonctionné, ton association avec BMR, les pubs que tu faisais?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Les premières années ont été assez difficiles parce qu'il n'y avait pas vraiment de département de marketing.
Ouais.
Fait qu'on ne savait pas vraiment comment l'utiliser. Puis éventuellement, il est arrivé la bonne personne au département marketing qui, lui, a dit « Hey, on a Hugo, on va l'utiliser. » Puis tu sais...
Que toi, t'embarques là-dedans aussi, là?
Ben, j'ai toujours été willing, parce que j'étais un gars comme ça, mais tu sais, à un moment donné, c'est un peu comme un puzzle, là. Si t'as toutes les... Puis il en manque une parce que t'as trouves pas dans ton casse-tête, tu pourras pas le terminer, mais c'était ça. Il manquait le bon morceau avec la personne, avec l'ouverture d'esprit, possiblement un peu d'audace, puis de se dire, regarde, on pourrait faire de quoi avec lui, ça serait bon. Puis, mais à force de me connaître, puis de me parler, mais il voit un peu ton type de personnalité. Mm. Ça a été difficile de me vendre au niveau du réalisateur. Celui qui réalisait les pubs, parce que je venais pas du milieu, il comprenait pas nécessairement ce que je faisais, donc il a fallu qu'on ait une rencontre pour voir si j'étais capable, un, de parler et possiblement de jouer. Fait que quand tu te fais expliquer ça, ça fait un peu bizarre, puis c'est un peu... ça flatte pas ton ego ben, mais ça fait partie des défis puis des choses qui, au final, mais ça a bien tourné parce que j'ai pris l'opportunité, puis je suis le genre de personne... Moi, au niveau de l'ego, là, c'est pas l'ego qui prend le contrôle, là. Ce que je veux, c'est avoir l'opportunité et la chance d'essayer.
OK. Oui, c'est ça. À partir du moment où lui t'exprime ses craintes, peut-être, mais qu'il accepte quand même, toi, c'est challenge accepted.
Exactement.
Tu veux embarquer là-dedans.
Oui, puis on va partir à la base.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as besoin? Fait que moi, ça n'a pas été. Ça m'est arrivé souvent. Là, on a fait des 50, des 60 takes. Puis il l'avait déjà sa take à partir de la 7-8e, mais il veut essayer ça. Regarde, go. Et c'est ça ta job. C'est ça que tu fais.
Oui. Puis après ça, tu as eu des opportunités qui sont arrivées?
Ce qui est arrivé, on a commencé par les pubs, puis en 2013, automne 2013, on m'a convoqué pour une rencontre chez TVA avec la création et les ventes. Et là, il y avait des gens de BMR, il y avait quand même beaucoup de monde. Puis j'ai aucune idée pourquoi on me convoque là. Là, on s'en va là-bas.
J'ai-tu fait une balle?
Non, je savais que c'était pas ça, là. Puis là, ben finalement... Ils ont eu l'idée de faire une émission de rénovation. C'était dès que possible. Je savais pas que ça allait être ça. Là. Puis là, ben, il voulait savoir si j'aurais de l'intérêt à animer l'émission. Fait que là, tu fais, OK, c'est des grosses chaussures à chausser. Ben, j'ai aucune expérience d'animer un show, encore moins. Fait que là, à part avoir fait des entrevues à télé, puis avoir fait des commerciaux, mais on est loin de l'animation. Puis là, finalement, ben, j'ai demandé de réfléchir. J'ai fait des appels. J'ai appelé Dave Morissette.
Ouais.
C'est quoi les cours qui se donnaient? J'avais un léger défaut de langue. Fait que j'ai pris des cours de diction. Fait que j'ai vraiment fait, OK, qu'est-ce que j'ai besoin, là? J'ai demandé conseil. Là, à partir de là, j'ai dit, OK, c'est beau, je vais embarquer.
T'es allé chercher les outils, puis t'es entraîné.
Exactement. Même affaire que je faisais avec l'entraînement. Fait que c'est quoi que t'as besoin? On commence à la base. Donc, t'essaies pas de commencer en haut. Tu commences en bas, puis on va construire à partir de là.
Oui, puis ça a été une belle émission que vous avez faite. Là. Je veux dire, avec tes partenaires de travail pendant ton émission, tu avais de l'air à avoir une belle entente. Là. Ben, c'est une confrérie. Là,
là on a fait des auditions avec des contracteurs. Fait que là, on faisait une petite scène à peu près 10-15 minutes.
Pour voir comment ça allait aller.
Comment ça allait. Puis là, on filmait ça. Puis là, ensuite, c'est quoi ton feeling avec qui? Puis moi, je suis easy going pas mal. Ça a marché pas mal avec tout le monde. Mais avec Kevin, ça a été vraiment un bon clic. Et là, dès que possible, est devenu les Renault du Go. Puis ça a continué 8 saisons. Ça a été... tu sais, Kevin, c'est devenu mon chum. Francis, son partenaire, son chum. Ses employés sont devenus mes chums. Et ce que tu vois là-dedans, j'ai la chance. Le meilleur conseil, c'est Dave Morissette qui me l'avait dit. Il avait dit, Hugo, reste toi-même.
Oui, c'est ça. C'est le secret de Dave Morissette. Je veux dire, il n'a jamais changé de
iota. Il dit, essaie pas d'être un autre. Fais juste rester toi-même.
Ouais.
Puis c'est direct ça que j'ai fait. Fait que le gars que tu vois à TV, c'est le gars que tu vois dans la vie. Là. C'est la même chose. Fait que je joue des tours, j'ai du fun. Fait que quand je suis à l'aise avec le monde, ben, on s'organise pour avoir du plaisir. Parce que dans la vie, travailler puis d'avoir du fun, ben, ça rend les choses, tu joues l'utile à l'agréable.
Ouais. Les autres émissions que tu as faites?
J'ai fait de barbecue. Beaucoup de barbecue. Moi, j'étais un gars qui aime manger. Fait que ça, c'est parti. C'était parti de mon idée. On a fait barbecue non-stop avec Yann Perrault. Ensuite, on a fait le fou du barbecue, 3-2-1 barbecue. Faites à vos risques et périls, bienvenue aux touristes.
À vos risques et périls, ça pognait pas mal. Là.
Ça, c'est de loin l'émission. L'aventure la plus enrichissante que j'ai faite.
OK.
Dans le sens que.
Qu'est-ce que tu as appris?
C'était un défi, tu sais. Il a fallu que je me... Tu sais, de rencontrer des gens, des criminels, puis de les emmener à échanger avec toi, puis de se confier à toi, c'est pas nécessairement la chose la plus commune que tu vois. Et de te rendre sur leur territoire, de le faire avec peu de moyens, sans sécurité, donc tu t'exposes. Puis à chaque fois qu'on le faisait, là, on s'exposait. Quand je dis « on », c'est moi puis mon équipe. Puis dans l'équipe, il y avait moi. Il y avait Félix Trépanier. Tu avais Francis Bibeau. Il y a eu Gabriel Duguay, parce qu'il s'échangeait les deux caméramans. Ils splittaient pas mal les deux. Ensuite, on avait des cordeaux qui nous suivaient. Un, souvent c'est une femme, qui venait parce qu'il fallait coordonner les choses sur place. Puis on était tous ça, ça fit dans le camion. Puis on partait à l'aventure, puis on s'en allait dans les pires ghettos américains. Je vais te le dire, puis c'est pas des blagues. À chaque fois que je partais, tu sais, mon garçon me disait, « Hey, père, dis, organise-toi pour revenir. »
Il te le disait.
Ouais. Fait que là, tu sais, c'est pas du fake, là, c'est du vrai. Puis tu peux pas penser à ça quand tu fais ça.
Non.
Fait que quand tu pars, là, puis tantôt, tu parlais de respect, je te parlais de... Le non-verbal, comment tu fais les choses. Tu t'en vas là-bas, tu peux pas avoir de doute. Moi, chaque fois que j'ai manqué un levé, c'est parce que je l'ai manqué dans ma tête. Fait que tu pars pas dans l'idée que tu vas arriver là-bas, qu'il va arriver quelque chose. Tu pars dans l'idée que tu vas aller là-bas, puis tu vas revenir avec le stock shot que tu as besoin pour faire quelque chose.
T'as-tu eu peur?
À quelques reprises.
Ouais. C'était-tu la première fois de ta vie que tu avais peur? Parce que
non,
tu
parce qu'il y avait
sur un territoire qui était pas défriché avant. Tu n'avais pas surveillé le territoire à rien. Tu ne connaissais pas personne.
Non, mais dans la vie, tu sais, quand tu as voyagé, tu as fait plein de choses. J'ai été policier aussi. Tu as eu des situations stressantes. La beauté de tout ça, c'est que la peur, honnêtement, tu ne sens pas sur le coup. Tu la sens après.
C'est parce que tu vas rencontrer des gens pour qui la vie n'est pas si importante que ça.
Je te dirais, plus que ça, la vie ne vaut pas grand-chose.
Exact.
Fait que là, tu le sais, tu es là. Mais c'est ça la beauté de l'affaire. C'est que de faire ça, tu sais, au barbecue, tout le monde veut faire des hot dogs ou des hamburgers. Mais de faire de la bonne bouffe, de faire une bonne brisket, puis de la réussir à point, cuisson lente, puis longue, c'est pas tout le monde qui va réussir à faire de quoi que tout le monde va aimer. C'est exactement ça. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Puis on avait une fierté à le faire, parce que d'arriver à créer des liens, à tisser des liens avec ces gens-là, d'aller découvrir les lieux sur place, sans avoir de la protection, avoir le vrai feel de la place. Et ça s'explique pas non plus. T'sais, j'ai parlé avec un producteur américain, parce qu'on lui a envoyé un démo. Puis quand il m'a rappelé, après avoir écouté le démo, sa réaction, c'était « Êtes-vous des malades? Vous avez envie de mourir? » Parce que lui, il sait qu'est-ce qui se passe là-bas. Ouais. Puis il comprenait pas qu'on faisait ça. Fait qu'on a parlé trois quarts d'heure comment qu'on pourrait refaire l'expérience. Comment je voyais ça, puis si on travaillerait avec une équipe différente ou de manière différente, puis on ne peut pas le faire. Si tu vas avoir ce feeling-là, puis le vrai feel, tu ne peux pas faire ça autrement. Parce que tu vas finir par le faker, puis tu vas perdre l'authenticité que tu emmènes. Tu sais, les gens qui te parlent sont authentiques, puis je pense que c'est ça qui rend l'émission aussi pognante.
Ouais, moi, j'ai écouté quelques fois, c'était écœurant.
Puis tu sais, les affaires les plus hautes, on les a pas vues là, parce qu'ils n'ont pas fait la cote. Là.
OK, il y a des affaires qui ont enlevé.
Oh, oui, pas le choix parce qu'on posait ça sur évasion, donc c'est pas le mandat d'évasion c'est pas du Netflix. Là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas mis qui étaient. Tu sais, nous autres, c'est là qu'à un moment donné, il a fallu se réajuster parce qu'on était prêts, nous autres, d'aller très loin. Là. Bien plus loin que le mandat de l'émission. Ça honnêtement, je pense que ça nous a pris du temps. On l'a probablement jamais compris que finalement, on allait beaucoup trop loin que qu'est-ce qu'on avait besoin de faire.
Ça vous prenait tout un petit peu plus d'adrénaline.
Ben, à vrai dire, plus que tu y vas. Parce que c'est nous autres, là, ce que j'aurais aimé, là, c'est un autre diffuseur qui nous aurait dit, OK, les gars,
ouais,
on va y aller avec vous autres. Là, emmenez-nous au bout de ce que vous pouvez faire. Okay.
Pourriez-vous reprendre ça puis mettre ça sur Netflix?
Probablement. Et on a des
je discussions. Vous le souhaite,
oui, je me le souhaite aussi parce que maintenant, avec le bagage qu'on a en sachant puis en ayant grandi de tout ça, tu comprends un peu mieux au niveau du danger que des fois, tu n'es pas obligé de... Tu sais, il y a des affaires, des fois, qu'il y a une insouciance. Que ouais, maintenant que tu vas en être conscient puis que tu vas faire les choses autrement, probablement qu'on pourrait mieux travailler aussi puis faire ça encore mieux.
Hugo Girard, est-ce qu'il reste des rêves à atteindre? Ça serait quoi ton rêve ultime? Parce que tu m'as dit tantôt, tu sais, Yann, moi, je me couche, je me pose des questions à qu'est-ce que je vais faire demain. Puis des fois, j'ai peur qu'il ne me reste pas assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. C'est quoi ton rêve que tu dis ça, faut que je le réalise?
Ben écoute, j'en ai pas un en particulier, mais j'ai parti une ligne de vêtements de travail. Fait que ça, ben, on travaille fort là-dessus. J'ai développé un vêtement avec les minières. Fait que je m'en vais la semaine prochaine dans le nord du Québec rencontrer des mines. Fait que ça, c'est un beau projet d'affaires.
Ben
je
oui,
te dirais mon plus gros... Si j'avais un rêve à réaliser, c'est de laisser quelque chose à mon fils pour qu'il puisse prendre la relève puis que ça devienne un legs qui va avoir une continuité. Puis d'avoir mon fils qui travaille avec moi, là, ça serait vraiment mon rêve.
Est-ce qu'il t'accompagne, ton fils, dans tes trucs ou il se dit tout le temps, ben moi, il faut que je fasse mon propre chemin. T'sais, je regarde les fils de Patrick Roy, exemple, qui ont fait leur propre chemin. L'un qui est encore un peu dans le hockey, l'autre qui est plus dans la musique. Est-ce que lui a décidé qu'il doit avoir une forte stature aussi?
Puis il joue au football.
Football, oui.
Ouais. Puis moi, je m'entraîne avec. Là, il vient de finir la saison de football. Fait que là j'essaie de matcher mon entraînement avec ses heures à lui et ses disponibilités. Puis le training que je fais, c'est le sien.
Mais joue combien, là?
5 pieds 11 et 250 livres.
Fait quel âge?
Il a 18 ans.
OK. Fait qu'il il reste encore un peu de temps à grandir.
Oui, oui. Puis il va être costaud. Puis là, ben, avec l'entraînement qu'on fait, là, puis là, c'est fun parce que c'est moi qui fais les trainings.
Oui.
Mais en fonction de ses besoins à lui. Puis moi, je fais son training avec lui. Moi, j'ai fait mes affaires. Fait que c'est temps, je peux mettre de l'énergie. C'est vrai que c'est rendu mon meilleur ami. C'est mon partenaire d'entraînement. Il habite avec moi. L'été, il travaille sur la construction. Je suis bien fier. Là. C'est une bonne personne. C'est un bon gars. Puis lui, ben, il étudie en administration. Puis c'est ça qu'il veut faire. Il aimerait ça travailler dans les affaires.
Ça lui a pris combien de temps avant de comprendre que son père, c'était Hugo Girard?
Je pense qu'il faudrait que tu lui poses la question. On n'a pas ce genre de conversation-là. Non, tu serais surpris des conversations. C'est un peu comme si je parlais de mes chums. Là. On se tire la pipe pas mal. Puis... le monde trouve ça drôle quand il nous voit parce que t'as l'air plutôt de deux chums que d'un père et son fils.
Ouais.
Mais quand c'est le temps, ben, c'est correct. Mais la plupart du temps, là, on a vraiment une belle camaraderie.
T'as-tu des émissions qui s'en viennent, qu'on pourrait regarder?
Écoute, là, j'attends une réponse sur une émission. Ça, c'est un projet que j'ai initié. Un documentaire sur la... Hey, c'est le fun d'avoir un blind de main.
C'est pas grave. On y revient.
L'andropause.
L'andropause.
Oui, l'andropause. La santé fonctionnelle chez l'homme depuis 40 ans.
OK, je pense qu'il est temps qu'on fait des solutions. On va se parler en privé tantôt.
Ça va être vraiment le fun. Ben parce que justement, parce que à travers des événements que j'ai vécu, on s'est rendu compte, en parlant avec le médecin, que les hommes ne parlent pas de leurs problèmes.
Jamais.
C'est les femmes qui parlent de leurs problèmes avec le médecin. Puis là, ben moi, j'ai vu ça. Tu sais, moi, ma manière de penser, c'est quand il y a un problème, on le fixe parce que ça me permet d'aller plus loin, d'avancer plus loin. Dans l'entraînement, il y a un mouvement qui a de la difficulté, mais on va le travailler, on va trouver une solution. La santé, c'est la même chose. Tu veux pas que ça aille mal.
Non, c'est ça.
Fait quand il y a de quoi, je veux comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on corrige.
Fait qu'un projet de documentaire sur l'andropause, c'est extrêmement intéressant.
Avec un livre.
Avec un livre en plus.
Ouais, le livre va sortir l'automne prochain.
Hugo Gérard, ça a été un plaisir de te rencontrer. T'es vraiment le gars que moi j'ai appris à connaître durant les émissions. Des fois, on se pose toujours les questions. Es-tu vraiment le même gars? Puis tu l'as dit tantôt, Dave Morissette t'avait donné le bon truc, c'est-à-dire de rester soi-même. T'es la même personne. Qu'on t'entende à la télé ou encore à la radio ou en privé, t'es la même personne. C'est le fun de rencontrer du monde de même, du monde vrai, puis on comprend un peu plus pourquoi t'as eu toute cette belle carrière-là, puis on va te voir encore longtemps dans nos télés, puis dans le merveilleux monde des affaires.
Merci beaucoup.
Hugo Gérard, merci. Bonne soirée. Merci. On revient.
Marceau, le soir.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
102.1 Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock. Blink 182, one more time. You are to die to hear you miss me. You are to die to hear you say goodbye. Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Le voyage Rock and Pop, destination New York, baby! L'aréna le plus célèbre de l'univers, Madison Square Garden.
Et oui, c'est fini! Vous avez été nombreux à participer, mais un seul d'entre vous est finalement devenu The Chosen One.
Allô!
Bonjour, à qui on parle?
Oh, c'est mon numéro sur Twitch!
Est-ce que je parle à Marie-Ève Lessard?
Ben oui, tu parles à la Marie-Ève Lessard. Sais-tu quoi? Regarde, on a passé une semaine de débile, on a eu un dégât d'eau sur les trois étages. Mon chum, il a dit, me semble que de gagner ce voyage-là, me semble que ça serait la chose qui pourrait le mieux nous arriver.
Marie-Ève, ça c'est un rockin' pop dont tu te souviendras pour les siècles à venir. Ramène-nous un t-shirt avec la face de Pete Wentz, OK? Ah, puis un jersey des Rangers. Un gros merci à la poutinerie. La référence en poutine à Québec. Boulevard 102.1 et la poutinerie. Fier partenaire de tes rockin' pop.
Le 55e anniversaire de la Boucherie Beaulieu se poursuit samedi dès midi. Goûtez nos produits inégalés et courez la chance de remporter 2 000 $ en crédit voyage. Boucherie Beaulieu, un service personnalisé.
Sanivac offre ses services dans la ville de Québec. Choisissez Sanivac, une entreprise familiale depuis 1961. Expert en location de toilettes portatives et roulottes sanitaires, vidange de trappes à graisse, hydroexcavation, nettoyage d'égouts, déblocage et pompage en tout genre. Choisissez Sanivac. Avec plus de 15 000 toilettes portative, 500 employés qualifiés, 300 camions et 8 succursales. Sanivac possède l'inventaire pour vous offrir un service qui dépassera vos attentes. Travaillons ensemble. Choisissez Sanivac.
Qu'il s'agisse d'une tenue de route exceptionnelle, de performance ou de sécurité, conduisez en toute confiance avec le nouveau Mazda CX-90. Équipé de la traction intégrale iActive de Mazda, il détecte les conditions de la route pour une conduite plus réactive et plus confiante. Il a aussi été récompensé par l'IIHS, la référence en matière de sécurité. Optez pour le Mazda CX-90 hybride léger ou hybride rechargeable et profitez de la garantie à kilométrage illimité. Disponible chez votre concessionnaire Mazda dès maintenant.
Pour vos besoins chauffage et climatisation, faites appel au choix du consommateur numéro 1, Enviro-Confort. Conversion de votre système au mazout, installation de votre thermopompe murale et centrale, géothermie, échangeur d'air et accumulateur de chaleur. Pour votre chauffage et climatisation, enviroconfort.com.
Beneva, c'est plus qu'une référence en assurance entreprise. C'est aussi du bien bon monde. Comme Dave qui a rappelé son client superstitieux à 11h11 pour lui faire plaisir.
Ça, c'est gentil.
Comme Eve qui le dit pas qu'elle est végane à son client qui a une boucherie.
C'est très gentil.
Comme Carl qui, malgré sa diète, écoute sa cliente pâtissière lui parler de choux à la crème.
Ça, c'est gentil, Rall.
Bref, avec du bon monde de même, votre entreprise est bien assurée. Pour votre assurance entreprise, comparez-nous. Ça vaut le coup. Beneva.
Terrasse sur le toit, lounge, cour et stationnement intérieur, gym, c'est pas du rêve, mais bien quartier et ses appartements locatifs prêts pour occupation dès juillet 2024. Plusieurs unités disponibles allant de studio à maison de ville. Ça te plaît? Détail au quartier-quartier.ca.
Le mercredi, c'est festif au complexe du Phoenix avec Moule et Musique Live. Toujours un des meilleurs duos musicaux live à Québec pour accompagner votre dégustation de moules et frites à $19.95. Suivi de notre soirée chansonnier. À la hauteur de vos attentes, tous les mercredis au complexe du Phoenix.
Chez Couche-Tard, quand vous achetez deux caisses de 24 ou plus, on vous donne une carte rabais de 15$.
15 piastres?
Oui, 15$.
15 bidoux?
Oui, oui.
15 tomates?
Oui.
15 cha-ching? 15...
Dis-le comme tu veux, mais c'est 15$ à l'achat de deux caisses de 24 ou plus. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et Avenue Taniata à Lévis.
Boulevard 102 est de retour sur Facebook et Instagram.
Oh! Oh, yeah!
Ah, yeah!
Woo! Yeah!
Woo! On a des concours malades pis quelques niaiseries pas mal divertissantes pour vous autres.
Ah, ah!
Suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram.
Ah, yeah!
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
À tous, un excellent jeudi soir sur les zones de Boulevard. On va passer une belle soirée, un peu de précipitation de prévu. Pour aujourd'hui, c'était entre 2 et 4 cm. Puis c'est la même chose à peu près pour ce qui est de ce soir et cette nuit. 2 à 4 cm. Donc, espérons que ce week-end, ce sera un peu plus chaud. Si je me fie à mes radars, ce sera une alternance de soleil et de nuages pour ce qui est de samedi. Même chose pour dimanche. Et là, il n'y aura pas de précipitation. Donc, ce sera une belle fin de semaine, somme toute, et on aura un beau lit blanc, les amis. C'est sur ça qu'on va bâtir. Donc voilà, ce soir, on est avec Hugo Girard. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance là, d'entendre le podcast que j'ai fait avec lui de presque 60 minutes, eh bien, il sera disponible sur blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard sans faute à partir de demain. Donc, je vous laisse là-dessus. Demain matin, on se jase vers les alentours d'11h pour ce qui est de Marceau le midi. Et demain, ben soir, ce sera pour ce qui est de Marceau le soir à partir de 18h. Salutations, à demain. Ciao.
Marceau le soir.
Le vendredi 17 novembre, 19h, c'est le match Maxi au Centre Vidéotron. À l'achat de produits vedettes en épicerie, obtiens un match des remparts gratuit. Ben oui, gratuit pour toi et un de tes amis. Faites vite, les quantités sont limitées. Le vendredi 17 novembre, 19h, c'est le match Maxi des remparts de Québec.
Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez?
Oui. Wow!
Ah, ça, c'est les points Inspire de votre offre extra. Juste pour vous.
Il y en a beaucoup. Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
On va voir.
Oh, wow!
Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com.
Votre retraite vous préoccupe? L'inflation et vos rendements sont une source d'inquiétude? Utilisez-vous toutes les façons de vous enrichir, de sauver de l'impôt, de protéger vos avoirs et de maximiser vos rendements? Je suis Marc-Antoine Reed, planificateur financier de Rage Against le Matin à Boulevard. Mon équipe et moi vous proposons une deuxième opinion. Offrez-vous sans frais un plan financier complet et vivant et enrichissez-vous en toute tranquillité en prenant contact avec nous dès aujourd'hui.
Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion de patrimoine, Service financier, Group Investors Inc., cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
Les arbres rougissent, le vent est frais, c'est le temps de penser à vos pneus d'hiver. Prenez rendez-vous chez Volkswagen Saint-Nicolas pour l'installation de vos pneus. Même pas besoin d'être propriétaire d'une Volks. Prise de rendez-vous en ligne et rapide, service de qualité. Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire sur la rive sud.
Pour joindre la gang en onde par téléphone, 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 1021.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercado.fr.
Obtenez une carte cadeau d'une valeur de 100 $ pour 50 $ à la boutique au 7e ciel.
À juger, prochaine offre.
Obtenez une expérience thermale d'une valeur de 64 $ pour seulement 32 $ au Siberia Spa.
À juger à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fr.
Dans le fond, peu importe avec qui je place mon argent pour ma retraite, c'est du pareil au même.
Ben non. Au fond, tous nos produits d'épargne retraite soutiennent les entreprises d'ici.
OK. Fait que dans le fond, je pourrais épargner puis aider la société en même temps?
C'est ça. Parce qu'au fond, on trouve que c'est important d'investir en nous.
Mais dans le fond, je pourrais-tu investir dans un fer, un REER ou un CELI?
Ben oui. Au fond, on a ce qu'il faut pour votre retraite.
Puis dans le fond, quand vous dites « au fond »,
c'est « au fond de solidarité FTQ ». Visitez fondsftq.com pour lire les prospectus et découvrir notre offre complète de produits d'épargne.
Les aubaines d'avant le Vendredi fou sont en cours chez Canadian Tire. Et aujourd'hui seulement, les membres du programme Récompense Triangle obtiennent une prime de 20 fois l'argent Canadian Tire avec tout achat de 150 $ avant taxes. Achat admissible, des conditions s'appliquent.
Boulevard 102, là où ça compte.
5-4 les remparts avec 58 secondes!
Là où ça rock. Lausanne. Touchdown. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Ça, c'est du rock.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est mon dernier remplacement de la semaine dans le volume au max qui est renommé cette semaine. Le volume au Tom, merci d'être là. Tom Gauthier qui vous accompagne jusqu'à 20h avec la meilleure musique rock de Québec. Pourquoi je vous dis que c'est la dernière fois? Parce que demain, ça va être Matt Marcotte, le musique plusien qui va venir s'installer en studio pour le Bonhomme 7h, les 7 meilleures chansons de la dernière semaine ici à Boulevard 102.1. Dans la prochaine séquence rock, en fait, on commence ça en force avec Jelly Roll qui a remporté un trophée dans les dernières heures finalement du côté de Nashville, alors que Jelly Roll a remporté le meilleur artiste country, le meilleur nouvel artiste country de la dernière année. Ce sera l'énorme chanson Need a Favor, Creed avec Higher Fuel avec Emmerich, Corey Taylor avec Beyond, mais là on va faire un retour milieu des années 90 avec les frères Gallagher, la belle gang d'Oasis qui s'installe à Boulevard 102.1 avec une chanson de leur album What's the Story, Morning Glory, qui comportait notamment Wonderwall et Champagne. Supernova, bonne soirée.
How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday. Champagne supernova in the sky.
memories are just where you lay down. Drag the waters till the depths give up their dead. What did you expect to find? Was it something you left behind? Don't you remember anything I said when I said, don't fall away, leave me to myself, don't fall.
Sacrifice all those nights if I could make the earth and mine.